Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir et bienvenue à l'édition du 11 juin 2015, présentée par Morgane Guiriec et Timothée Dolangmaï. À la une ce soir.
Le Burundi, un mouvement de contestation à bout de souffle, le pouvoir crie victoire et l'émissaire onusien Saïd Djinnit démissionne.
Au moins 43 personnes ont été tuées mardi lors d'assauts de Boko Haram dans l'état de Borno. C'est dans ce contexte que se tient le sommet régional d'Abuja sur la lutte contre Boko Haram. Le Nigeria revendique la direction des opérations militaires contre les salafistes armés.
Et les casques bleus de nouveau accusés d'abus sexuels. Cette fois-ci, les faits se seraient produits au Liberia et en Haïti.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Plus d'un mois et demi après le début de la contestation, le pouvoir burundais crie victoire et affirme que le mouvement est terminé, alors que le médiateur de l'ONU a décidé de jeter l'éponge. Nicolas Pinault.
Une nouvelle fois, ce jeudi, les rassemblements populaires ont été très discrets dans la capitale Bujumbura. La police et l'armée, toujours très présentes dans les quartiers contestataires, ont réussi à étouffer le mouvement. C'est la raison pour laquelle le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye, a assuré à l'agence France-Presse qu'il n'y avait plus de manifestations à Bujumbura ou à l'intérieur du pays, aux grand dam des opposants qui ont dénoncé un pur mensonge. Monsieur Nkurikiye a même accusé les médias internationaux d'encourager les manifestations. Amnesty International a dénoncé la récente escalade des menaces contre les journalistes et Reporters sans frontières a souligné que quelques 50 journalistes burundais avaient fui le pays. Sur le plan diplomatique, Saïd Djinnit a jeté l'éponge. Contesté par l'opposition et la société civile burundaise, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs a renoncé à son rôle de médiateur. Les anti-troisième mandat mettaient en doute son impartialité et lui reprochaient de ne pas s'opposer au principe d'un troisième mandat du président burundais.
Nous restons dans la région des Grands Lacs pour parler de l'Ouganda, où les partis de l'opposition ont formé une coalition en vue de la présidentielle de 2016. D'après les médias ougandais, l'objectif est de désigner un candidat commun face au président Yoweri Museveni. Âgé de 70 ans, le président sortant a d'ores et déjà été désigné candidat par son parti.
Nouvelle série d'attaques dans le nord-est du Nigeria. Au moins 43 personnes ont été tuées mardi lors d'assauts de Boko Haram contre Matangalé, Bural Tima et Dirmanti dans l'état de Borno. Des dizaines d'insurgés islamistes à moto ont pris d'assaut les trois villages. Les témoins cités par l'AFP affirment qu'ils ont tiré sur les villageois, pillé et incendié leurs maisons.
Par rapport à ce dossier, le Nigeria dit qu'il doit diriger la force régionale contre les islamistes de Boko Haram pour l'ensemble de la durée de ses opérations. C'est ce qu'a estimé ce jeudi le président nigérien Muhammadu Buhari lors d'un sommet avec les chefs d'État voisins impliqués dans cette force. Jean-Roger Billon.
D'après l'AFP, le président Buhari s'est opposé lors du sommet d'Abuja à l'idée d'un commandement tournant de la force tous les 6 mois entre les 5 pays contributeurs de troupes. Ces derniers mois, c'est le Tchad qui a été à l'initiative des principales opérations militaires contre Boko Haram dans la région du lac Tchad. Un commandement unique va améliorer l'efficacité de la stratégie militaire dans la mesure où le Nigeria va fournir le gros des troupes et où le principal théâtre des opérations se situe sur le sol nigérien, a estimé M. Buhari. Cette force d'intervention conjointe multinationale est doté de 8 700 militaires, policiers et civils fournis par le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin. Son quartier général sera installé à N'Djamena et il était déjà entendu qu'elle serait commandée à son lancement par un général nigérian. Le Tchad et le Niger se sont cependant plaints d'un manque de coordination avec l'armée nigériane et d'avoir été empêchés de conduire des opérations en profondeur contre Boko Haram sur le territoire nigérian.
Les casques bleus de nouveau accusés d'abus sexuels. Cette fois-ci, les faits se seraient produits au Liberia et en Haïti. Un rapport de l'ONU indique que les soldats de maintien de la paix ont échangé de l'argent ou des fournitures contre des faveurs sexuelles de la part de centaines de femmes. Selon une enquête menée à Monrovia, auprès d'un échantillon de 489 femmes âgées de 18 à 30 ans, plus d'un quart avait procédé à des transactions sexuelles avec les casques bleus, généralement pour de l'argent. Le document, encore confidentiel et daté du 15 mai, a été obtenu par l'AFP et doit être publié sous sa forme définitive la semaine prochaine.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika entend mener son quatrième mandat jusqu'à son terme en 2019. C'est ce qu'a assuré son directeur de cabinet que cite l'AFP. Il a également démenti l'idée selon laquelle le président préparerait son frère Saïd, actuellement son conseiller spécial, à lui succéder.
Lutte contre le terrorisme au Maroc. 7 membres d'une cellule terroriste ont été arrêtés ce jeudi, d'après le ministère de l'Intérieur cité par l'agence MAP. Ils projetaient d'enlever et de liquider des touristes. Ces djihadistes ont déclaré leur allégeance au groupe État islamique, souligne le gouvernement marocain.
Contrebande, les douaniers de l'aéroport parisien de Roissy ont découvert 136 kilos d'ivoire brut dans des caisses en provenance de la République démocratique du Congo et à destination du Vietnam, ont annoncé jeudi les autorités françaises citées par l'AFP, une prise effectuée le mois dernier.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les forces irakiennes ont tenté de faire reculer le groupe État islamique sur plusieurs fronts aujourd'hui, tout en attendant le renfort de 450 soldats américains supplémentaires. On fait le point avec Claire Morin-Gibourg.
L'histoire se répète. C'est après la prise de Mossoul par le groupe État islamique que Barack Obama avait annoncé l'envoi de 300 soldats en Irak. Ils sont aujourd'hui plus de 3000. Après la chute de Ramadi à dominance sunnite, ce sont donc 450 nouveaux experts militaires qui vont être envoyés en Irak dans le but d'accélérer la formation des troupes irakiennes et de permettre une meilleure coordination avec la coalition menée par les États-Unis pour les bombardements aériens. Des militaires qui ont aussi une mission diplomatique, convaincre les sunnites de prendre part à la lutte contre l'État islamique. Sur le terrain irakien, plusieurs opérations militaires sont en cours pour reconquérir les vastes territoires perdus il y a un an, avec des résultats plus ou moins probants. Les Peshmerga, les forces de la région autonome kurde, avançaient au sud et à l'ouest de la ville de Kirkouk, tandis que les troupes fédérales irakiennes et des milices chiites poursuivaient leurs opérations pour sécuriser les alentours de la ville de Badji et de la raffinerie voisine, la plus grande du pays. Les réfugiés qui fuient les violents combats entre forces kurdes et djihadistes dans le nord du pays continuent à affluer en Turquie, qui a annoncé son intention de leur fermer provisoirement sa frontière.
En Syrie, les forces de Bachar al-Assad ont essuyé une nouvelle défaite, les rebelles ayant vraisemblablement pris de larges parties d'une base aérienne de la province de Souaïda dans le sud du pays. Selon un porte-parole rebelle contacté par l'AFP, un avion militaire aurait également été abattu. D'ailleurs, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui dispose d'un large réseau d'informateurs sur le terrain, a confirmé la prise partielle de l'aéroport d'Al-Tala, utilisé comme base par le régime pour des frappes contre les insurgés à Damas et Deraa. L'information a toutefois été démentie par la télévision d'État.
En Chine, les hauts fonctionnaires continuent de faire les frais de la campagne anticorruption. Cette fois-ci, c'est l'ancien chef de la sécurité, Zhou Yongkang, qui a été condamné. La peine est lourde, puisqu'il écope de la prison à perpétuité. D'après les médias d'État chinois, il est aussi privé de ses droits politiques à vie et ses biens personnels ont été confisqués. Le point avec Michel Joseph.
Cette dernière condamnation fait de Zhou Yongkang, 72 ans, le fonctionnaire le plus puissant à être mis au pilori par le Parti communiste. Inculpé le mois dernier pour corruption, abus de pouvoir et divulgation de secrets d'État, il a admis sa culpabilité. L'ancien chef de la sécurité ne fera donc pas appel à la décision rendue lors d'un procès secret qui s'est tenu à huis clos dans la ville du nord de Tianjin. Après des mois de rumeurs sur son sort, Zhou a été arrêté l'année dernière et dépouillé de son statut de membre du Parti communiste. Pour le président Xi Jinping, la corruption endémique dans les cercles officiels chinois pourrait menacer l'emprise du parti sur le pouvoir. Il a donc lancé une campagne acharnée contre la corruption. Au moins 50 autres hauts fonctionnaires et de nombreux autres cadres de bas niveau ont ainsi été épinglés.
L'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Samantha Power, est en visite à Kiev, où elle a rencontré le président Petro Poroshenko et d'autres hauts responsables. Dans un message sur Twitter, la diplomate américaine a déclaré que Washington soutient l'Ukraine sur deux fronts, contre l'agression russe et la formation, et pour la formation d'un gouvernement ouvert et réceptif. Les entretiens de Mme Power en Ukraine devraient porter sur l'application des accords de Minsk, alors que les hostilités ont repris dans l'Est ukrainien entre les séparatistes et les forces gouvernementales.
Le pape François a reçu au Vatican les participants à la 39e session de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui se tient actuellement à Rome. Le souverain pontife a appelé à un engagement majeur de la communauté internationale pour modifier les styles de vie. Il a critiqué le comportement des sociétés multinationales dans les pays pauvres, notamment l'accaparement des terres. Cela prive les agriculteurs d'un bien essentiel et atteint directement la souveraineté des États, a dit le chef de l'Église catholique.
Et puis cette nouvelle économique, les États-Unis, premier producteur de pétrole à l'échelle mondiale en 2014, c'est ce qu'indique un rapport de la société BP. La révolution du gaz de schiste a permis aux Américains de dépasser les Saoudiens, fait remarquer l'économiste Spencer Dale. Voilà pour le journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Claire Morin-Gibourg.
En entretien avec des membres de la FAO, le pape François a dénoncé l'accaparement des terres par les entreprises multinationales dans les pays pauvres, précisant que cela portait atteinte à la souveraineté des États. Il a insisté sur l'importance du soutien à l'agriculture vivrière familiale, dénonçant le fait que dans nombreux pays, les femmes ne puissent pas posséder les terres qu'elles exploitent. Le pape François a exhorté la FAO à renforcer les projets en faveur des entreprises familiales et stimuler les États à réguler de manière juste l'usage et la propriété de la terre. Les prévisions de croissance du continent africain seront légèrement en baisse en 2015, selon les chiffres de la Banque mondiale. En Afrique subsaharienne, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Tchad et le Rwanda figurent en tête de peloton avec des croissances largement supérieures à 5%. Par contre, la Gambie, la Guinée, l'Afrique du Sud et le Lesotho sont à la traîne. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a tenu aujourd'hui une réunion avec une délégation de plus de 50 dirigeants d'entreprises françaises dans le but de renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Dans le même temps, plusieurs projets de développement franco-kenyans ont été signés par les deux gouvernements.
C'était la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg. Merci.
Bonsoir Félix.
Bonsoir Tim.
Coupe du monde de football des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande, l'Ouzbékistan a réussi le tour de force de se hisser en quart de finale.
Les jeunes Ouzbeks ont créé la surprise en battant leurs homologues autrichiens par 2-0. Également qualifié aujourd'hui, l'Allemagne, victorieuse du Nigeria par 1-0, le Portugal qui s'est imposé face aux pays hôtes 2-1 et le Brésil qui a défait l'Uruguay au tir au but. Le Mali, le Sénégal, les États-Unis et la Serbie ont validé leurs billets pour les quarts de finale hier. Voici le tableau des quarts de finale. Brésil contre Portugal, Mali contre Allemagne, États-Unis contre Serbie et Ouzbékistan contre Sénégal.
Crise de la FIFA, le Parlement européen appelle au départ immédiat du président démissionnaire Sepp Blatter.
Les eurodéputés ont voté à une très large majorité à main levée pour un texte préparé conjointement par les 7 groupes politiques de l'Assemblée réunis en session plénière à Strasbourg. Celui-ci demande à la FIFA de choisir un président provisoire approprié pour remplacer Blatter. Entre-temps, le directeur de la communication de la FIFA, Walter de Gregorio, un proche de Sepp Blatter, a décidé de quitter ses fonctions avec effet immédiat. C'est son adjoint Nicolas Mango assurera la fonction de directeur de la communication par intérim.
Finale de la NBA, la Ligue nord-américaine de basketball professionnel, Golden State tentera de revenir à la marque ce soir.
Cleveland mène la série par 2-1 après s'être imposé mardi soir. Le club de l'Ohio n'est plus qu'à 2 du tout premier titre de son histoire. Les Californiens aimeraient bien eux aussi remporter le trophée, leur dernier sacre remontant à 1975.
Merci Félix.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Timothée Donangmaï et Morgan Guiriec en votre compagnie ce soir. Place au dossier du jour. Première escale, le Burundi.
Des dizaines de milliers de Burundais ayant fui la tourmente politique se sont réfugiés dans les pays voisins. Henri Francisque a joint dans un camp de l'est du Rwanda notre envoyé spécial, Bagasikura.
Le camp de Mahama est situé juste à la frontière tanzanienne, dans l'est du Rwanda. C'est un vaste camp qui s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares. On parle de 24 000 réfugiés, hommes, femmes et enfants, des gens qui ont tous fui le Burundi depuis fin avril, depuis ces violences qui ont fait suite à la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Les humanitaires expliquent ici que les premières vagues étaient composées surtout de femmes et d'enfants. Puis après, certainement voyant que la crise s'enlisait, les hommes et pères de famille surtout ont suivi à ce qu'on dit dès les premiers jours. Les autorités rwandaises et les organisations humanitaires ont pris le problème très au sérieux, ni les moyens qu'il faut, ce qui fait que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème majeur dans ce camp, comme par exemple cette épidémie de choléra qui a éclaté dans un autre camp de réfugiés burundais en Tanzanie.
Donc, il y a près de 24 000 réfugiés dans ce camp. Est-ce qu'ils se sont organisés pour rester longtemps ou bien ils disent tous qu'ils veulent rentrer au pays le plus rapidement possible?
Voilà, ce qu'on explique ici, c'est que les gens pensaient que ça allait être une situation temporaire. C'est d'ailleurs pourquoi on a vu les femmes et les enfants arriver et les hommes sont restés derrière dans le pays. Mais ces dernières semaines, les gens expliquent ici que les hommes et les pères de famille ont commencé à arriver parce que beaucoup se disent que cette crise va s'installer dans la durée. Et je crois que les autorités rwandaises et aussi les humanitaires se préparent à accueillir ces gens pour une assez longue période. On parle même d'ailleurs de construction de maisons dans les villages avoisinants pour pouvoir abriter ces gens et peut-être à la longue leur trouver des terrains pour cultiver pour ceux qui sont paysans.
Les autorités burundaises et le président Pierre Nkurunziza lui-même avaient lancé un appel aux réfugiés pour leur demander de rentrer au pays, pour leur dire qu'il n'y avait pas nécessité d'aller à l'étranger, que la crise allait être résolue. Est-ce qu'il y a des volontaires, est-ce qu'il y a des gens qui veulent rentrer, écouter cet appel?
Non, tous ceux avec qui nous avons échangé dans ce camp, personne ne veut rentrer. Ils racontent les violences, les circonstances assez effrayantes dans lesquelles ils ont dû fuir leur pays et pour l'instant personne ne veut retourner au Burundi. Et beaucoup sont un peu coupés aussi de l'actualité dans leur pays. Ils disent qu'ils n'ont plus de nouvelles depuis qu'ils sont partis, mais ils ne sont pas prêts pour le moment à retourner au Burundi.
Joint dans un camp de l'Est du Rwanda, notre envoyé spécial Bagasikura.
La crise politique au Burundi affecte une économie nationale qui se débattait déjà dans des difficultés. Les agences d'aide internationale menacent de se retirer et le taux de chômage ne cesse de monter, tout comme les prix des produits de première nécessité. Idrissa Seydoudia nous en dit plus.
Selon l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Bujumbura, Emily Yob, les activités en magasin d'entreposage de riz dans la capitale ont été subitement arrêtées il y a quelques semaines. Les policiers ayant accusé son gérant de vendre du riz aux manifestants, un employé qui a requis l'anonymat. Ce travailleur explique qu'il chargeait le riz pour les clients et pouvait ainsi se faire entre 2 et 5 dollars par jour. Mais c'est très, très difficile ces jours-ci, dit-il, et il va probablement rentrer à la maison les mains vides. La fermeture de l'entrepôt affecte tout le monde, poursuit-il, travailleurs et marchands. Toutes les vies sont affectées à cause de ça. Le Burundi, pour rappel, fait face à la crise politique la plus sérieuse qu'il ait connue depuis la fin de la guerre civile il y a une décennie. Des manifestations violentes ont suivi l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza en troisième mandat. Trois semaines de protestations ont inévitablement eu un impact profond sur la fragile économie de l'un des pays les plus pauvres du monde. Certains magasins et commerces ont dû suspendre leurs activités à cause de l'insécurité. Des barrages routiers empêchent le transport de produits de base tels que le riz, affirme Estelle, vendeuse au marché de Bujumbura. Estelle explique que le riz du riz tanzanien a augmenté et qu'il est devenu plus difficile de l'obtenir parce que les fournisseurs ont peur de le transporter à cause des barricades et de l'insécurité. Plus de la moitié de la population burundaise souffre de malnutrition et la dernière hausse des prix des produits alimentaires n'a fait qu'accentuer les pressions, estime Michael, qui tente désespérément d'acheter un panier de vivres au marché. Michael dit que les prix de toutes les denrées ont augmenté. Un kilo de viande lui coûtait avant 2 dollars environ. Maintenant, il doit payer presque 3 dollars. Idem, dit-il, pour le riz et les tomates. C'est un luxe que les gens ne peuvent pas se permettre, explique-t-il. Pour certains analystes politiques, la fin de la crise politique ne signifierait pas nécessairement la fin de la crise économique, particulièrement si M. Nkurunziza venait à être réélu. La moitié du budget du Burundi vient de l'aide extérieure et l'un des principaux donateurs du pays, la Belgique, a déjà menacé de suspendre son assistance si M. Nkurunziza se cramponnait au pouvoir.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine à la question du troisième mandat. S'éterniser au pouvoir en changeant la Constitution est-il un mal africain ? Le 21e siècle est-il celui de l'alternance politique sur le continent ? Et les Occidentaux doivent-ils imposer leurs pratiques démocratiques aux pays africains ? Nous vous invitons à en débattre sur notre page Facebook et rendez-vous ce jeudi dans notre émission 19h temps universel sur VOA Afrique.
En Libye, les autorités soupçonnent qu'il y a chez elles 1 million de sans-papiers. Certains travaillent dans le pays, mais la plupart ne rêvent que d'emprunter les embarcations de fortune des passeurs pour se rendre en Italie. Une odyssée et qui a souvent des conséquences tragiques en Méditerranée. Le point avec vous, Timothée Donangmaï.
Les officiels libyens dont le pays se débat dans ses propres problèmes de guerre civile reconnaissent qu'ils sont débordés. Un correspondant de la VOA a constaté de visu la situation cette semaine dans des camps de détention bondés et bruyants de Tripoli, la capitale. Collins, un Ghanéen de 30 ans, qui avait du mal à sécher ses larmes.
They gave us food. I want to go back to Ghana. I love my country.
Ils nous donnent à manger, mais je veux retourner au Ghana. J'aime mon pays. J'étais seulement parti pour me faire un peu d'argent pour pouvoir monter une affaire à mon retour. J'étais dans le bâtiment, je louais des produits d'échafaudage, outils et autres équipements. Donc j'étais venu ici pour avoir plus d'argent en vue d'une expansion de mon entreprise, a répété Collins. Sous les rayons ardents du soleil libyen, dans la cour du centre, Collins était en compagnie de 300 autres migrants arrêtés par la police ou les milices libyennes en tentant de se rendre en Europe ou en travaillant illégalement dans le pays. Richard, un plâtrier de 28 ans, également du Ghana. Nous prions pour qu'ils puissent faire quelque chose, pour qu'ils nous libèrent. S'ils ne peuvent pas nous libérer, qu'ils nous ramènent chez nous pour nous permettre de recouvrer notre liberté parce que nous sommes ici et nous souffrons trop. La douleur est trop forte. Les gardiens de ce camp de détention sur la route de l'aéroport de Tripoli sont essentiellement des miliciens n'ayant aucune expérience. Et ça se voit. Et leur travail n'est pas facilité par les risques de réactions violentes dans un camp bondé de gens désespérés et où les conditions d'hygiène laissent à désirer. Selon le directeur du centre, Meloud Djuma Salem, les migrants viennent pratiquement de tous les pays d'Afrique subsaharienne. Voyant l'effet qu'avait sur le reporter de la VOA, les histoires que racontaient les migrants, bien qu'aucun d'eux n'ait accusé les gardiens de mauvais traitements, Salem a voulu donner sa version. Selon Djuma Salem, le reporter doit se rappeler que certains de ces hommes sont des criminels. La nuit dernière, ils ont essayé de s'évader en cassant les vitres d'une fenêtre, a-t-il dit, ajoutant qu'ils créent beaucoup de problèmes. Djuma Salem appelle la communauté internationale à aider à mettre en place des installations adéquates pour faire face aux migrants et assurer leur sécurité.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
En visite ici aux États-Unis, la ministre française de l'écologie, Ségolène Royal, a fait la promotion du prochain sommet sur le climat, la COP21, qui aura lieu à Paris en décembre prochain. Un sommet aux répercussions importantes pour le continent, particulièrement touché par le réchauffement climatique. En jeu notamment, le financement du Fonds vert à hauteur de 1 000 milliards de dollars, ce fonds des Nations Unies étant destiné à aider les pays en développement touchés par les changements climatiques. Mais quelles actions spécifiques peuvent-elles être prises pour le continent africain? Au micro de Claire Morin-Gibourg, la réponse de Ségolène Royal.
D'abord, je voudrais dire que l'avenir du continent africain, c'est quelque chose de crucial. Je me confierais que c'est mon pays natal. Vous voyez, je suis extrêmement attentive à ce qui se passe en Afrique. Ce qu'il faut, c'est permettre à l'Afrique d'accéder aux technologies du renouvelable, le solaire, l'énergie thermique des mers, l'éolien, etc., la géothermie également, parce que l'Afrique a tout pour réussir. Et donc, ce transfert de technologies, c'est la clé du développement économique en Afrique.
Où en est-on du financement du Fonds vert ?
Alors, le Fonds vert a ses 10 milliards de dollars aujourd'hui. Ce qui reste à faire, c'est des engagements concrets. Par exemple, les pays du G7 ont décidé qu'il y aurait une utilisation du Fonds vert prioritaire pour les énergies renouvelables en Afrique. Donc ça, c'est déjà une initiative concrète. Il y a aussi tous les problèmes de replantation forestière, les problèmes de protection de la biodiversité, qui sont absolument essentiels. Et ensuite, il y a l'autre fonds de 100 milliards d'euros d'investissement financier, d'investissement économique, qui doivent également être mis en place pour permettre le développement économique de certaines entreprises.
Êtes-vous particulièrement inquiète du sort des réfugiés climatiques ?
Oui, parce que la question des réfugiés climatiques, vous voyez, c'est quelque chose qui déstabilise la sécurité. Donc, si on arrive à fixer les populations parce qu'elles auront accès à l'eau potable, qu'elles pourront cultiver la terre, qu'elles auront accès à l'énergie solaire, que leurs enfants pourront apprendre parce qu'ils auront de l'éclairage le soir, on règle vraiment la question de la survie, et même la question de la qualité de vie. Et inversement, si on ne réussit pas à limiter le réchauffement climatique, on aura des déplacements massifs de populations à l'échelle planétaire, donc menaçant la sécurité, nourrissant les intégrismes et les terrorismes de toute nature, parce que quand les populations sont rejetées vers la misère, à ce moment-là, elles deviennent le terreau de manipulateurs et d'idéologies destructrices. Donc c'est un enjeu considérable. Derrière le climat, il y a l'enjeu de la sécurité.
Ségolène Royal, la ministre française de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa. Baby, you a song, make me wanna roll my windows down and cruise.
Cette édition touche à sa fin. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, assisté de Brian Marcougui à la console, présentation Morgan Guiriec et Timothée et Donangmaï.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
VOA Afrique.